Bonjour à tous. Géraldine a parlé du festin que le Père a organisé pour son fils qui revenait. On va être dans le même thème encore pour la prédication. Je vous invite encore à la prière. Notre Père, merci. Merci parce que tu te laisses connaître. Tu te révèles à nous. Tu te révèles en particulier par ta parole révélée dans la Bible, et nous voulons encore être à son écoute. Amen. Il y a quelque chose de très drôle, que je trouve très drôle de faire avec mes enfants, c'est de jouer à cache-cache. En général, ils aiment bien que ce soit eux qui se cachent, et ils aiment bien me laisser chercher. Et en général, je les trouve très rapidement. Pourquoi ? Parce que je les entends rire. Ils se cachent et puis, alors on les entend rire. Alors on sait tout de suite où ils sont. Mais avant d'annoncer que je les ai trouvés, je fais semblant de chercher et de ne pas trouver. Et cela les fait encore plus rire. Alors du coup, on sait encore plus où ils sont. Jusqu'au moment où je les découvre, je les trouve enfin. Alors dans ce jeu, les parents font semblant de chercher et de ne pas trouver. Cela amuse les enfants. Mais il faut savoir que les enfants savent, assez vite en tout cas, savent que les parents font semblant. Et c'est aussi cela qui les amuse. Alors en tant que parent, voilà ce genre de choses à laquelle on peut passer notre temps parfois. Et il y a aussi d'autres jeux. Des jeux de société comme Croque-Carotte. J'ai découvert que c'était un jeu assez connu, on nous l'a offert. C'est un jeu où on a besoin de compter seulement jusqu'à 3. Alors si on était juste entre nous adultes, cela ne nous viendrait pas à l'idée de se dire « Tiens, et si on faisait un croque-carotte ?» Non. Mais avec les enfants, on y joue. On y joue parce qu'on participe à leur éveil. Et on prend plaisir en fait. Voilà, c'est pas forcément des jeux qu'on aurait choisis par nous-mêmes, mais finalement ça nous fait plaisir parce que ça nous fait plaisir d'être ensemble. Tout cela pour dire qu'en tant qu'adulte, pour interagir avec un enfant, pour jouer avec lui, pour lui montrer que nous l'aimons, nous nous mettons à son niveau. Il faut s'abaisser. Non pas se rabaisser, mais s'abaisser. Et on le fait avec plaisir, finalement. On dit souvent que lorsque l'on parle à un enfant, il est préférable de se baisser. Alors, pas forcément tout le temps, mais voilà, quand les circonstances s'y prêtent, on se baisse pour parler à un enfant qui est plus petit que nous, pour se mettre à son niveau. C'est une manière de le respecter, de le considérer et de l'aimer. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que si Dieu existe, et si Dieu aime l'humanité, alors forcément, il s'est mis à notre niveau. Il a dû descendre de son ciel, il a dû se baisser pour nous parler, pour nous rejoindre. Et c'est ce que la Bible raconte. Dieu est descendu dans la personne de Jésus, et qu'a-t-il laissé comme message ? Alors Géraldine nous a donné un aperçu, et on va encore poursuivre avec un autre aperçu ce matin. Ce que Jésus a fait, entre autres, quand il était parmi nous, c'est qu'il nous a laissé une invitation pour un festin, encore un festin. Et qui dit invitation, dit aussi réponse souhaitée. Je vous propose de lire ce récit dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14. Alors on va voir si la technologie marche aujourd'hui. Ah, c'est bon, pour l'instant ça marche. Évangile selon Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Après avoir entendu ces paroles, parce que Jésus est à table et il discute de plusieurs choses, après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table avec Jésus lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est prêt. » Mais sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. La scène se passe à table, comme beaucoup de scènes bibliques. Au début du chapitre, on apprend que Jésus est invité chez un chef des pharisiens, un parti religieux très strict et très influent dans le judaïsme de l'époque. Jésus profite des différentes discussions pour enseigner. Il raconte des petites histoires qui font réfléchir, des paraboles comme celle que Géraldine nous a lues aussi. Avant notre passage, les discussions tournent déjà autour des thèmes du festin, des invitations. Nous allons l'évoquer un peu plus tard. En attendant, on peut commencer par s'intéresser au début de la parabole. Elle met en scène un homme qui organise un festin et qui invite beaucoup de gens. C'est précisé dans ce texte, beaucoup de gens sont invités, ont été invités. Alors, quelle est l'invitation initiale? Dans le contexte juif de l'époque, le festin avait une certaine connotation. Les prophètes avaient annoncé qu'à l'issue de la fin des temps, au paradis, il y aura un festin avec Dieu. C'est pour cela qu'au début de notre passage, il y a un homme qui fait une réflexion et qui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Parce qu'ils étaient en train de parler de festin. Donc « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus poursuit avec la parabole. Et nous verrons évidemment que c'est en lien avec le festin du royaume de Dieu. Dans l'histoire, le maître de la maison devait être quelqu'un de très riche, car seules les personnes aisées avaient les moyens d'organiser un tel repas et d'envoyer un serviteur avertir les invités. Et les invités aussi devaient être dans la même catégorie sociale que l'organisateur. Dans la culture de l'époque, on s'invitait entre personnes de même rang social. On ne trouvait pas un riche qui invitait un pauvre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas. En tout cas, ou alors c'était exceptionnel. Et ce genre de repas se préparait longtemps à l'avance, un peu comme un repas de fête de mariage. Il fallait donc connaître le nombre d'invités plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Il nous est précisé dans le texte qu'il avait invité, comme je l'ai dit, beaucoup de gens. Dans la pratique de l'époque, et c'est toujours le cas dans certaines cultures aujourd'hui, les invitations se faisaient et se font dans certaines cultures en deux temps. Il y a d'abord une première invitation où les gens répondent pour dire « oui, je serai présent ». Comme ça, l'organisateur connaît le nombre d'invités, le nombre de tables, de chaises à préparer, le nombre de repas à commander. Ensuite, à l'approche de l'événement, une deuxième invitation annonce que c'est prêt. C'est une sorte de confirmation. Les invités donc de notre parabole avaient donc déjà répondu présent à l'invitation. Si on relit bien le texte, on se rend bien compte que l'invitation avait déjà été lancée. Un homme avait invité beaucoup de gens. L'organisateur annonce via son serviteur, donc c'est la deuxième invitation, la confirmation, « Venez car tout est prêt ». Alors intéressons-nous maintenant aux invités et à leur comportement. Le narrateur précise que tous les invités s'excusent. Le premier répond ceci au verset 18, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Acheter un champ, ce n'est pas banal, ça coûte cher. Et normalement, quand on achète un champ, eh bien, on va le voir avant de l'acheter. Le premier invité précise qu'il est obligé d'aller le voir. Donc si le champ est déjà acheté, quelle urgence y a-t-il à aller le voir? Est-ce que cela aurait pu attendre peut-être quelques heures? Le deuxième invité répond ceci au verset 19. « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Là encore, l'excuse n'est pas très crédible. Les bœufs servaient notamment à labourer dans les champs. Et donc, on les achetait par paire. Lui, il achète 5 paires de bœufs. Et donc, il faut forcément les essayer pour voir si les bœufs arrivent à se coordonner ensemble, les choisir en fonction de leur vitesse, de leur gabarit, etc., pour voir s'ils arrivent à travailler ensemble, à avancer à la même vitesse. Comment se fait-il qu'ils les essayent seulement après l'achat? On peut noter que le premier invité, après avoir donné son excuse, avait complété en disant qu'il est obligé d'aller voir le champ. En revanche, le deuxième invité ne donne que l'excuse. Il a acheté des paires de bœufs et il doit les essayer. Il ne dit pas qu'il est obligé de les essayer ce jour-là. Au fur et à mesure que les invités donnent leurs réponses, les excuses sont de moins en moins crédibles, recevables. Le troisième invité, mentionné en tout cas, répond ceci au verset 20. « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À l'époque, un mariage, alors aujourd'hui encore, mais encore plus à l'époque, un mariage était entouré de grandes festivités qui pouvaient durer plusieurs jours. Si l'on ajoute le festin du maître de la maison, cela fait deux grands événements dans la même localité. Normalement, les organisateurs évitaient ce genre de doublons. On n'organisait pas deux grands événements si proches. Le nouveau marié aurait dû prendre cela en compte. De plus, en quoi le fait d'être nouveau marié l'empêche d'assister au festin? Personnellement, je ne vois pas le lien. Alors peut-être qu'il y en a un que les gens de l'époque pouvaient voir, mais en tout cas, avec notre culture aujourd'hui, voilà, on est nouveau marié, ben, ça n'empêche pas d'aller à un festin. On peut remarquer aussi que ce troisième invité ne s'excuse pas. Les deux premiers se sont excusés, lui, il ne s'excuse pas. Au fur et à mesure que les réponses sont citées, nous nous rendons compte du mépris et du désintérêt, voire même de l'indifférence des invités. En plus, il semblerait que ce genre de festin avait lieu en fin de journée. Cela laissait le temps aux différents personnages de faire ce qu'ils devaient faire et la fin de journée, d'assister à la fête. Alors mettons-nous maintenant à la place de l'organisateur, du maître de la maison. Imaginez que vous organisez une fête importante, par exemple un repas de mariage ou un anniversaire important. Cela vous prend des semaines et des semaines, voire des mois. Cela vous prend de l'énergie, du temps, de l'argent. Et les invités laissent entendre, oui, ils seront de la partie. Vous avez déjà loué une salle, la vaisselle, réservé un traiteur et même un DJ. Vous avez déjà versé des acomptes. Le matin même, tout est prêt. Vous êtes fiers de tous les préparatifs, vous trouvez que c'est beau, les tables, la déco, tout ça. Vous prenez une photo et vous postez sur les réseaux sociaux une photo de la salle toute prête, tout fier de vous. Et dans la foulée, les uns après les autres, tous les invités répondent « Désolé, je ne viendrai pas ». Tous se défilent les uns après les autres, avec des excuses bidons, devant tout le monde, des excuses bidons, du type « Oui, j'ai acheté une voiture, c'est pourquoi je ne peux pas venir ». Comment réagiriez-vous? Alors là, on sourit un peu, mais si c'était vraiment vrai, comment est-ce qu'on réagirait? Comment le maître de la maison réagit-il? Voyons la réaction du maître de la maison. Verset 21. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le maître de la maison est certainement déçu, mais il est aussi en colère. Et cela peut se comprendre. S'il est en colère, ce n'est pas par caprice, Ce n'est pas exagéré, à mon avis. C'est parce qu'il a tout organisé avec soin pour ses invités. Il a dépensé de l'argent, il a consacré du temps, de l'amour. Il a envoyé un serviteur à leur rencontre. Mais ces derniers ont fait preuve de mépris. Ils ont manqué de considération, de respect, et ils ont été désinvoltes. Ce genre de passage nous aide un peu à comprendre pourquoi la Bible contient des passages qui parlent de la colère de Dieu. Dans la parabole, le maître de la maison, on fait le parallèle, c'est Dieu qui invite chacun de nous à son festin, c'est-à-dire à une communion avec lui, comme Géraldine l'a dit, à être connecté avec lui. Le repas, à l'époque et aujourd'hui encore, peut-être d'une autre manière, mais un peu moins, mais en tout cas dans les cultures de l'époque, le repas, ce n'est pas seulement manger ensemble, c'est passer du temps de qualité ensemble. C'est partager une relation. Le repas que Dieu propose est un festin, il est généreux et il souhaite une relation entière, authentique. Pas seulement un coup de fil de temps en temps, mais une communion de chaque instant. Cette invitation a été faite en particulier au peuple juif, car c'est ce peuple qu'il a formé lui-même, avec Abraham, Isaac, Jacob. Les pharisiens, tout comme les responsables religieux, étaient censés préparer ce peuple, le peuple, à accueillir favorablement le Messie, c'est-à-dire Dieu incarné en homme, Dieu qui s'est abaissé pour nous rejoindre, le Christ. Mais au lieu de cela, ils l'ont rejeté. Ils ont comploté pour le mettre à mort sur la croix. Car Jésus était trop révolutionnaire, pas assez conventionnel. Il osait mettre le doigt sur les incohérences de la religiosité de l'époque. Si dans la Bible, on nous parle de la colère de Dieu, ce n'est pas pour décrire un Dieu méchant, autoritaire, distant ou froid. C'est pour décrire un Dieu qui a tout fait pour son peuple, avec amour, et qui reçoit en retour du mépris, de l'ingratitude, de la désinvolture. Dans la parabole, le maître de la maison envoie son serviteur chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Ces gens-là sont exactement les mêmes personnes citées par Jésus dans une autre parole juste avant notre scène. Donc je vous les lis, c'est juste le passage avant, des versets 12 à 14, nous c'est à partir du verset 15, là c'est 12 à 14, donc je vous les lis. Jésus donne le conseil suivant à celui qui l'avait invité. Il dit, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Alors cette démarche que Jésus conseille, ce n'est pas pour rejeter ses proches, ce n'est pas non plus pour montrer sa supériorité devant tous les pauvres. Mais c'est pour dire que si l'on invite des gens qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, on n'attendra rien d'eux en retour. Et donc, on le fait vraiment avec désintérêt. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et le bonus, c'est que lorsque nous faisons le bien gratuitement, sans rien attendre en retour, Dieu finira par nous le rendre. Dans la parabole, après le refus des invités initiaux, le maître de la maison fait venir des gens qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Et tant mieux. Car ce qui le motive, ce n'est pas d'attendre quelque chose en retour. Ce qui le motive, c'est simplement de donner, non pas de recevoir. Le maître de la maison ne fonctionne pas avec un système de donnant-donnant, mais simplement de dons, de cadeaux. Après avoir accueilli les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, il reste encore de la place. Et oui, il y a beaucoup de place dans la maison du Père. Alors il dit à son serviteur, Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » La notion d'obliger les gens à entrer peut paraître un peu surprenante. Elle nous fait réfléchir. Mais il ne faut pas mal interpréter ce passage. On ne doit pas forcer les gens à devenir chrétiens. Cela n'aurait pas de sens, puisque c'est une démarche intérieure, une démarche de foi, et non pas une démarche d'apparence. Si le maître de maison demande à son serviteur d'obliger les invités à entrer, c'est parce que dans la culture de l'époque, nous l'avons dit, les pauvres ne mangent pas avec les riches. Ils n'oseraient pas participer à ce genre de festin. Ils ne se sentiraient pas à leur place. De plus, ils ne pourraient pas rendre l'appareil. C'est pour cela que pour recevoir ces invités-là, il faut que le serviteur insiste et les presse, les oblige à entrer. Pour conclure, que pouvons-nous retenir de cette parabole pour notre vie à chacun ? Nous l'avons dit, le maître de la maison représente Dieu et il nous invite à un festin. À travers la création, à travers la conscience que nous avons de son existence, à travers la Bible, à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus, Dieu nous invite à son festin. Quelle est notre réponse ? Ce festin symbolise une communion avec lui, pas juste oui et puis voilà, après je continue ma vie. Ce festin symbolise une communion avec lui, une communion de chaque instant, et pas seulement un coup de fil de temps en temps, un matin par semaine. Beaucoup de gens, comme les pharisiens, comme les premiers invités, ont répondu oui à son invitation. Mais ce n'est pas parce que l'on a répondu oui que tout est en ordre. Ce oui doit être concrétisé dans les actes, dans la vie de tous les jours. Ce oui doit se refléter dans notre humilité vis-à-vis de Dieu, comme si nous étions pauvres, estropiés, aveugles, boiteux. Qui mérite d'être au festin de Dieu ? Qui le mérite ? La Bible dit que personne ne le mérite. Ceux qui se croient importants, ceux qui se croient assez bons pour le mériter, passeront à côté du festin. Car lorsque tout sera prêt, leur orgueil les incitera à snober le maître de la maison. Ils se croient autosuffisants, ils pensent accéder au paradis par leurs propres moyens, par leurs propres bonnes actions. Personne ne mérite d'être au festin. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, mais Dieu choisit de faire entrer les plus petits, les plus humbles, ceux qui savent qu'ils ne méritent rien. Que notre cœur soit humble et dans l'accueil de cette invitation du maître de la maison aujourd'hui encore. Amen. Je vous invite encore à la prière. Père, merci, parce que c'est toi qui nous fais entrer. Lorsque nous nous reconnaissons indignes, non méritants, comme des pauvres, des estropiés de la vie, aide-nous à nous faire petits devant toi. Peut-être que nous pouvons être importants dans ce monde, dans cette société, mais devant toi, nous sommes petits, toi qui es le Créateur. Et merci parce que tu as toi-même choisi de te faire petit en te mettant à notre niveau, en t'abaissant. Merci pour cette bonne nouvelle, cette invitation gratuite que tu nous fais. Et aide-nous à avoir le cœur disposé à entrer dans ce festin. Et que notre vie d'église soit empreinte de la joie d'être en communion avec toi. Que ce soit dans les bons moments, tout comme les moments difficiles, comme Géraldine l'a rappelé encore. Nous savons que tu es bien présent. Tu es ce Dieu qui nous guide et qui nous fait grâce de ta présence. Alors merci encore. Amen.